Et direction les États-Unis après une semaine agitée pour Donald Trump. Agitée, mais pas nécessairement mauvaise. Des bonnes nouvelles d'abord. Après la publication des bons résultats économiques du premier trimestre, la cote de popularité du président américain n'a jamais été aussi élevée. Ce qui lui a donné des armes lors des discussions qui ont eu lieu hier et avant-hier avec la Chine pour tenter de trouver un accord commercial. Des moins bonnes ensuite. Les États-Unis ont de nouveau durci les sanctions à l'égard de Téhéran qui s'est affranchi des restrictions imposées à son programme nucléaire et l'on parle désormais de scénario de guerre avec l'Iran. Washington ne veut pas de conflit mais se tient prêt avec un porte-avions, une task force aérienne et depuis cette nuit un navire de guerre au Moyen-Orient. Reste le plan intérieur, des révélations contre ses anciens déboires financiers dans la presse, la convocation de Donald Trump Jr. dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe pendant la campagne et un bras de fer continu avec les démocrates dont certains demandent sa destitution. Dick Howard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes philosophe, distinguished professeur émérite de l'Université d'État de New York, auteur d'un livre qui a paru en fin d'année dernière, Les ombres de l'Amérique, de Kennedy à Trump aux éditions François Bourin, un livre dans lequel vous appelez de vos voeux un retour du politique sur les ruines de la politique et vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il retourne. Un pays qui affiche une bonne santé économique mais qui est au bord de la guerre commerciale avec la Chine et d'un conflit militaire avec l'Iran. Est-ce que c'est vraiment un pays qui se porte bien, Dick Howard ?
Non. Je ne dis pas que ça se porte bien. Je dis que c'est un pays qui a finalement perdu les amarres et où on recherche notre belle, bonne, vieille république qui est mise en question. Je crois que vous avez déjà fait allusion à la distinction entre la politique et le politique. Une manière d'établir cette distinction, ce serait de comparer la république, c'est-à-dire le cadre au sein duquel la démocratie se développe, prend ses armes et vit. Et la question qui se pose actuellement, c'est justement, est-ce que la politique, et dans le sens le plus mesquin, si l'on veut, du terme, prend le pas sur le politique et met en question le politique, c'est-à-dire la République.
Est-ce que ce n'est pas une victoire de la politique de Donald Trump qu'on voit aujourd'hui, un président porté par des bons résultats économiques du premier trimestre, chômage au plus bas, croissance au plus haut, 3,6% de la population active à la recherche d'un emploi en avril seulement, c'est le plus bas niveau depuis 1969, les salaires sont enfin repartis à la hausse, la productivité augmente, etc., etc., Dick Howard. Victoire de la politique de Donald Trump ou pas ?
Que je sache, justement, si on veut parler de victoire de la politique, c'est justement dans le sens de la politique et le danger. Écoutez, je le dirais autrement. Dans ce livre, je parle beaucoup de l'histoire, aussi bien des dernières 50 ans que de l'histoire américaine dans des termes plus larges. L'un des livres fondateurs des États-Unis, vous savez, il y a la Constitution qui est créée. Mais avant la Constitution, il y a la Déclaration, justement, de l'indépendance de Jefferson. C'est 1776. La même année, sont publiés trois autres textes en langue anglaise. Il y a justement la richesse des nations, Adam Smith. Il y a le fragment sur l'utilitarisme de Bentham. Et il y a enfin le grand livre de Gibbon, le déclin et chute de l'Empire romain. Et si vous voulez, la conscience de toute Américaine est hantée par le destin de Rome. C'est-à-dire, pour revenir donc à ces beaux chiffres, justement, est-ce que on ne va pas devenir tellement riche, tellement oisif, tellement repu, que finalement on oubliera cette idée du politique, cette république qui a rendu possible tout cela.
Qu'est-ce qui manque, Dick Howard, à Donald Trump pour que sa politique devienne du politique?
Et il lui manque tout simplement une capacité de regarder au-delà de son nez, au-delà de ses petits intérêts. Vous avez parlé de la situation internationale américaine. Finalement, c'est un homme qui pense le court terme, qui est incapable de reconnaître que d'autres en désintérêt, que par exemple Monsieur Xi Jinping ne va pas d'un jour au lendemain parce que les Américains sont dans une position dominante économique, il ne va pas céder tout de suite, il a lui aussi à prendre en compte sinon son peuple, du moins son parti. Pour ce qui est de l'Iran, même chose, oui, la position américaine est dominante et on se demande comment ils vont s'en sortir, les Iraniens, mais je ne vois pas que les Iraniens cèdent pour des raisons toutes bassement économiques.
Est-ce que vous êtes inquiet de la situation? Est-ce que vous regardez plutôt la politique extérieure aujourd'hui, et donc guerre commerciale avec la Chine et conflit, peut-être même escalade, hein, c'est ce qu'on entend dire aujourd'hui avec l'Iran, ou est-ce que vous regardez plutôt sur le plan intérieur et cette mousse positive qu'on entend?
Ben, je regarde les deux, mais en effet, ce qui me préoccupe un peu plus, c'est la situation domestique. Je l'ai dit dès la soirée électorale de Donald Trump, que la question c'était, est-ce que nos institutions républicaines, j'entends, allaient tenir? Est-ce qu'il allait les mettre en question et à quel niveau?
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de ce point de vue-là?
Ah, c'est terrible. C'est terrible et ça va de mal en pis. Vous avez cité les conflits avec le Congrès, par exemple. Il n'y a de comparable, à ma connaissance, que la situation de Richard Nixon vis-à-vis de Watergate. Trump, actuellement, la Chambre des représentants a été prise pendant aux élections de mi-mandat. Les démocrates maintenant président des commissions d'enquête. Ces commissions doivent, justement, parce qu'il s'agit de situations de poids et contre-poids, hein, checks and balances, comme on dit, mais...
Pouvoir contre pouvoir.
Mais exactement. Et donc, il faut justement se souvenir toujours qu'il s'agit de contre-poids et pas simplement de freins. N'est-ce pas? Et alors, ils demandent des informations, ils demandent des papiers, ils demandent qu'on vienne témoigner. Et Trump refuse, carrément refuse de se présenter. Il dit non, je ne vais pas le faire. Alors, les démocrates ont deux choix. Et aucun n'est pas un bon. Soit ils demandent encore ces papiers, ils vont à la cour, éventuellement ça monte à la cour suprême, et le temps que ça monte à la cour suprême, il y a le grand risque que les quatre ans du mandat de Donald Trump soient terminés. Ou bien ils font ce qui tente beaucoup, à savoir ils ouvrent le procès en impeachment, c'est-à-dire en destitution. Mais pour que cette destitution prenne effet, il faut non simplement l'inculpation par la Chambre, mais justement un procès et des résultats au Sénat. Et au Sénat, il y a une majorité républicaine qui ne va pas voter contre le président.
Mais les démocrates, Dick Howard, ont présenté une pétition jeudi rassemblant 10 millions de signatures pour précisément demander au Congrès de lancer la procédure de destitution du président. Vous y croyez à ça? Ça peut marcher, une pétition de 10 millions de personnes aux États-Unis?
Non. Et on n'a pas de RIP aux États-Unis non plus, donc ça ne marchera pas. Non, ce qui pourrait se passer, si on prend le premier cas où justement ça traîne dans la cour, le pire des cas, à mon sens, c'est justement que viendront les élections de 2020. Le cas n'aura pas été résolu et Trump est réélu. Auquel cas, ces conditions de frein et de contrepoids n'auront plus, pour ainsi dire, d'effet, car déjà, j'ouvre une parenthèse, j'aurais dû dire que si Trump refuse de les convocations du Congrès, c'est parce que il est quasiment sûr qu'il va gagner à la Cour suprême, car n'oublions pas que par de basses manœuvres, les républicains ont réussi à empêcher Obama de nommer un juge à la Cour suprême. Maintenant, Trump a nommé deux juges, c'est-à-dire il y a une majorité 5-4 pour les républicains. À moins que l'un des juges, à savoir M. Roberts, qui préside la Cour, à moins qu'il ait un sens des obligations de sa position, et non pas de sa position politique, mais du fauteuil où il est assis, ils voteront, comme ils ont voté en 2000, ils voteront en 2000, vous vous souvenez, c'était George Bush qui est élu par la Cour suprême. Donc, à supposer que Trump est réélu, on va avoir une Cour suprême qui sera à sa main.
Mais ça veut dire aussi que la stratégie de bras de fer initiée par les démocrates de la Chambre des représentants, avec en particulier ce bras de fer entamé avec le ministre de la Justice, William Barr, qui a été aussi auditionné au Sénat début mai, mais qui ne s'est pas rendu à une audition parlementaire sur sa gestion du rapport Mueller, qu'il a par ailleurs vilipendé, ce bras de fer-là est vain pour vous, dit Coward. Il ne sert à rien, il n'aboutira à rien.
Il aboutira peut-être à convaincre un certain nombre de députés, de sénateurs, républicains même, que justement, il ne faut pas s'agenouiller devant le prince, c'est-à-dire qu'il faut affirmer leur propre position. La chose la plus étonnante peut-être du point de vue de mon point de vue, enfin, c'est la manière dont les républicains, qu'on croyait des honnêtes hommes, etc., capitulent. Ils capitulent sans cesse. Vous avez vu, par exemple, que justement, vous avez fait référence au fait qu'on veut auditionner le fils de Trump.
Dans le cadre de l'enquête sur l'éventuelle influence russe pendant la campagne 2016.
C'est ça. Et c'est au Sénat. Et la commission du Sénat qui l'appelle à témoigner est présidée par un républicain de la Caroline du Nord. L'autre sénateur de la Caroline du Nord, au lieu de prendre le côté de son collègue, dit non, moi je suis comme le président, je pense que c'est pas juste de l'appeler comme ça. Pourquoi cette différence entre deux collègues? C'est que celui qui a demandé à Trump fils de venir témoigner a annoncé déjà qu'il ne se représente pas au Sénat. La même chose pour quatre autres républicains qui ont osé s'opposer à Trump, chacun quitte la politique. C'est-à-dire que Trump joue pas la politique, il joue la mafia. C'est-à-dire qu'un sénateur ou un représentant qui s'opposerait à lui sera opposé lors des primaires par un candidat trumpiste. Et comme les circonscriptions électorales aux États-Unis ont été charcutées de telle manière que l'un ou l'autre parti a une prédominance, si vous êtes démocrate ou si vous êtes républicain, la seule manière où vous pouvez perdre votre siège, c'est par un défi qui viendrait de votre propre parti, c'est-à-dire démocrate, l'aile gauche, républicain de l'aile droite. Et donc, voilà où on se trouve dans une situation.
Mais en même temps, dit Coward, est-ce qu'il n'y a pas une part d'acharnement en particulier, considérant ce rapport Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016? Il faut quand même rappeler que le procureur spécial a écrit ne pas avoir trouvé de preuve d'une entente entre la Russie et l'entourage de Donald Trump. Il a dressé la liste d'une série de pressions troublantes exercées sur son travail, mais on a pu lire, en tous les cas, que Trump était sorti blanchi.
Non, on n'a pas lu ça.
Des zones d'ombre, pour paraphraser votre titre de livre.
On a entendu ça de la voix, du procureur, enfin du ministre de la Justice, M. Barr. On a entendu ça de lui avant la publication du rapport. Et ce que le rapport dit, en fait, effectivement, ce que vous dites est vrai. Il n'y a pas de preuve de collusion, ce joli mot qui n'existe pas en langue anglaise. Il n'y a pas de preuve de collusion. Mais, disait Mueller, je ne peux pas exonérer. Et justement, il a écrit son rapport de façon à ce que le Congrès prenne ça et le traite de cette manière, d'une manière politique.
Et c'est pour ça que la politique continue. Cette
et
fois-ci,
voilà.
La politique continue en la matière et que l'enquête judiciaire n'est pas totalement terminée non plus,
voilà.
Dick Howard. On vous retrouve dans quelques minutes, juste après la revue de presse de Natacha Triou. Il est 8h30 sur France Culture. Dick Howard est notre invité ce matin, philosophe et professeur émérite de l'Université d'État de New York. Dick Howard, vous avez écouté cette revue de presse de Natasha Triou, Jacinda Ardern, modèle de femme première ministre, modèle pour les Européennes. Alors j'ai un peu envie de vous poser la question de façon double. Est-ce que vous avez l'équivalent aujourd'hui parmi les candidats déclarés pour 2020? De votre côté, c'est plutôt du côté démocrate. Et puis de l'autre côté, c'est la question des Européennes qui doit nécessairement vous intéresser. Je ne sais pas comment on en parle aux États-Unis, mais elle manque singulièrement de souffle, cette campagne européenne. Voilà, une question double à propos d'une seule et même personne.
En fait, ce qui m'a frappé en écoutant cette information sur la Nouvelle-Zélande, tout d'un coup est apparu devant mes yeux George W. Bush.
Tiens donc.
Après le 11 septembre, qui était un modèle de générosité, embrasser les autres, aimez-vous les uns les autres, etc. Il y avait un moment d'unité nationale qui est perdu. Mais je ne peux pas aller plus loin. Je dis tout simplement qu'il y a peut-être parfois du bon qui chemine en dessous de nos pays. Pour ce qui est de
les Européennes et de l'Europe,
oui, 33 listes tout de même. Voilà, vous nous devancez de 10 listes, parce que nous, quand même, pour les primaires démocrates, on en est à 23 candidature. Pourquoi peut-on se demander? Il y a beaucoup de raisons qui pousseraient un homme politique ou une femme politique de candidater. Entre autres, du coup, on se fait remarquer. On va être sur la liste de ministres éventuels. On va être reconnu par des lobbyistes. Ça va. On a toujours maintenant, après son nom, non seulement distinguished professor, on est maintenant ancienne candidat à la présidence. Quoi que vous n'ayez eu que 2%, il y a actuellement le maire de New York qui joue avec l'idée de candidater. Il a un chiffre dans les minus, c'est-à-dire il est en dessous de zéro.
Quand même un candidat qui se dégage pour vous.
Il y a plusieurs candidats. Votre question est double. Pour moi ou pour la presse.
Vous voyez.
Pour moi ou pour la presse.
Non, pour vous.
Pour moi, il y a non,
non. Parmi les 23, aucun pour vous n'a grâce à vos yeux. Pour l'instant.
J'accorde pas la grâce. J'observe les chances des uns des autres. Je regarde leurs points forts, leurs points faibles. Par exemple, bon, prenons les deux leaders actuellement. C'est le Bernie d'une part et
Bernie Sanders,
Biden de l'autre part. Alors, entre les deux, on a un siècle et demi. Hein, c'est deux hommes qui ont fait leur temps. Je pense que Bernie a le soutien de ce qu'on appellerait l'aile gauche du Parti démocrate, mais il dit la même chose depuis très longtemps, et curieusement, il veut être le candidat du Parti démocrate à la présidence alors qu'il refuse de faire partie de ce parti. Il n'est pas membre. Et surtout, il veut tout de suite. C'est-à-dire, il n'est pas prêt à faire de la politique, si vous voulez, si on joue avec ces mots-là. Si on prend Biden, au contraire, l'ancien vice-président de Barack Obama, lui, il porte la légitimité républicaine, mais comme il a été sénateur pendant 40 ans et vice-président par la suite, il a beaucoup de bagages. Donc, on va regarder vers quelqu'un de nouveau et surtout, on regarde vers les femmes. Il y en a de très intéressantes, chacune.
Comme,
comme Kamala Harris, par exemple, l'ancienne procureure générale de l'État de la Californie, femme d'origine jamaïcaine et indienne.
Elle se présente comme la candidate de la justice, de la décence et de l'égalité.
Eh ben voilà, mais est-ce que vous trouverez un candidat qui n'aurait pas de jolis slogans, de jolies prétentions? Ce dont il va s'agir en dernier lieu, c'est qu'on a maintenant jusqu'en juin de l'année prochaine, avant que les primaires auront commencé à dégager. Alors, d'ici là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gaffes qui peuvent se faire, beaucoup d'idées qui peuvent sortir. Et puis surtout, je crois que pour l'instant, il n'y a que les journalistes et quelques idiots comme vous et moi, enfin vous êtes journalistes, qui suivent ça.
Mais pas
ça
américaine.
qui suivent ça de très frais.
Mais Dick Howard, surtout, ce qui se passe en ce moment, c'est que donc Donald Trump a la cote. Il est en très bonne posture. Pour l'instant, en tout cas.
Il n'a pas dépassé
50%. Ça ne vous fait pas plaisir, mais c'est vrai que malgré tout, la cote de popularité n'a jamais été aussi bonne. Vous avez écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'intitulait « Aux origines de la pensée politique américaine ». Est-ce que aujourd'hui, on est 2 ans et demi après l'élection de Donald Trump, est-ce que vous comprenez mieux aujourd'hui la pensée politique de Donald Trump ou elle vous échappe toujours autant?
Écoutez, quand j'ai écrit c'est aux origines de la pensée politique américaine, c'était un peu sur justement la naissance de cette république, de cette figure unique d'une démocratie républicaine. Je me permets une parenthèse. Vous avez posé plusieurs questions comparatives entre l'Europe ou surtout la France et les États-Unis. Il y a une distinction fondamentale que j'établis dans ce livre et qui continue à jouer dans l'analyse des ombres de l'Amérique de Kennedy à Trump. Vous avez en France une république démocratique, c'est-à-dire on veut que la république, les institutions et la société coïncident. C'est la vision de 93 et c'est la vision de la gauche après 1917 en Russie. Par contre, aux États-Unis, vous aviez une situation tout à fait différente. Vous aviez une société qui s'est libérée du joug colonial des Anglais pour vivre en démocratie et petit à petit, après la Constitution, après une série d'événements, on s'est rendu compte que justement, il fallait non pas une république démocratique où les deux, politique et société, coïncident, mais une situation où justement la république permette et encourage l'activité de la société démocratique. Donc, moi, ma préoccupation reste toujours... est-ce que la gauche du Parti démocrate n'est pas hantée par cette vision socialisante, si l'on veut, cette vision française, si l'on veut, de créer une république démocratique et de dire que justement une démocratie républicaine laisse trop de liberté à la société et surtout laisse trop de liberté aux capitalistes et laisse trop de place à l'inégalité? Est-ce que pour effacer ou pour mettre fin aux inégalités, il faut aller à l'autre extrême et les faire disparaître entièrement? Voilà.
Dick Howard, c'était hier en France, et vous êtes en France actuellement, mais c'était hier la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. Ce sujet qui est finalement le point de départ de ce nouveau livre, Les ombres de l'Amérique de Kennedy à Trump, ces ombres qui hantent votre Amérique, c'est le rapport à cette histoire. On lisait dans lemonde.fr, sans doute un article à paraître aujourd'hui, un article sur le retour du débat sur l'esclavage aux États-Unis. C'est un point de départ, mais ça n'est pas un point d'arrivée. Vous partez de cette question pour arriver au ressentiment social.
Exact. Et ça m'a étonné moi-même, et c'est et ce qui arrive quand on fait un livre finalement, et surtout quand on est libre de faire son livre. On n'est pas contrainte par les conditions universitaires, etc. Oui, effectivement, je pars de la manifestation du pouvoir blanc à Charlottesville, un an après l'élection de Donald Trump, et je pensais, enfin, le livre comporte beaucoup de d'autobiographie aussi, dans le sens que j'ai été militant.
C'est vous dans cette histoire, oui. Tout à fait.
Et toujours est-il que je pensais que j'allais retrouver une renaissance du racisme. Renaissance du racisme, ça sonne bizarre, mais bon, passons. Mais en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, le point tournant est au moment de 1979-80, quand Reagan vient au pouvoir, et l'économie est en mauvaise situation. Il y a ce qu'on appelait la stagflation, c'est-à-dire les salaires nominaux montent, mais les salaires réels restent les mêmes, mais le barème des impôts ne prend pas ça en compte, et du coup, les blancs, sur les ouvriers, la classe ouvrière blanche, qui, à la surprise de tous les analystes, soutenait Ronald Reagan, cette classe ouvrière bascule. Et là, on voit la naissance d'un ressentiment. Et dernière chose, ce que je commence à soupçonner ici chez nos amis les Gilets jaunes, c'est justement non pas un racisme, mais plutôt justement un ressentiment contre nous qui nous trouvons actuellement à Paris, qui avons des diplômes, etc.
Mais et on Exactement, vous reviendrez nous parler des Gilets jaunes et de votre regard sur la France de ces 6 derniers mois, Dico Ward, mais restez bien sûr avec nous pour le dernier quart d'heure des matins. Il est 8h46 sur France Culture.